On va ouvrir la Bible. Vous savez, la Bible nous révèle plusieurs noms qui ont été attribués à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, d'ailleurs on l'a chanté, il est le Verbe incarné, il est la parole de Dieu. La Bible nous dit aussi que le Seigneur il est aussi appelé le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Là, ça veut tout dire. C'est Ésaïe qui aussi en son temps a prophétisé en disant que Jésus allait venir par l'intermédiaire d'une vierge. Et on connaît le nom de cette vierge, c'est Marie. Mais le prophète Ésaïe va préciser qu'on appellera ce sauveur du nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et ce même prophète, le prophète Ésaïe, va dire dans Ésaïe chapitre 9 verset 5 qu'il est, concernant Jésus, qu'il est l'admirable. C'est-à-dire le merveilleux. Il est le conseiller. Il est quoi encore ? Le Dieu puissant. Le Père éternel. Et enfin, le prince de la paix. Eh bien, voyez-vous, ce matin, j'aimerais rajouter à cette liste qui est, vous l'avez compris, pas du tout exhaustive, rajouter deux autres noms. Deux autres noms par lesquels Jésus-Christ est cité, Jésus-Christ est désigné. Et pour cela, je vous encourage à faire une première lecture dans Apocalypse chapitre 19 et le verset 11. Juste un verset en introduction, Apocalypse chapitre 19 et le verset 11. Voilà, je laisse les uns les autres le temps de chercher dans le dernier livre de la Bible, vous l'avez compris, ce passage merveilleux. Apocalypse chapitre 19 et le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il juge et combat avec justice. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il n'y a pas de doute à avoir sur la personne qui se trouve sur ce cheval blanc qui est image de celui qui est victorieux, qui va, alléluia, en vainqueur. Il n'y a pas de doute à avoir sur l'identité de ce personnage. Il est bien question ici de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, si on prenait le temps de lire les versets suivants, par exemple Apocalypse 19, versets 12 à 16, on peut lire « Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Et au verset 15, il nous est dit « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Sommes-nous convaincus qu'il ait fait mention ici de la personne de Jésus ? Regardez un autre passage, Apocalypse chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, c'est Jésus qui parle, qui s'adresse à ces sept différentes églises, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, non pas qu'il fasse partie de ce que Dieu a créé, mais il était à l'origine de la création. D'ailleurs, tout a été créé par lui et pour lui. Il est la parole qui s'est faite chair. Je parle encore de la personne de Jésus. Jésus est le fidèle et le véritable. C'est sur ces deux mots que je voudrais m'arrêter avec vous ce matin. Ces deux qualités, fidèle et véritable, sont, à mon sens, deux vertus que nous avons besoin de manifester, de rechercher pour notre compte. Durant toute cette année 2019. Car notre désir, c'est celui de ressembler à Jésus-Christ. Il y a d'ailleurs un petit cœur qui le dit, « Te ressembler, Seigneur, c'est mon espoir suprême. » Et lorsque nous demeurons dans la fidélité, lorsque nous sommes des hommes et des femmes qui sont reconnus pour être vrais, véritables, nous demeurons en Jésus-Christ, nous ressemblons à la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes fidèles et véritables, non seulement nous ressemblons à Jésus-Christ, mais mieux encore, nous serons aussi dans les conditions favorables pour être fin prêt pour son imminent retour. Parce que Jésus est à la porte, parce que Jésus revient bientôt. Et seuls ceux qui seront fidèles, seuls ceux qui seront vrais, vrais avec eux-mêmes, vrais avec Dieu, vrais avec les autres, eh bien, qui pourront décoller, parce que ce sera l'affaire de quelques secondes, hein. Pop, en un clin d'œil, on sera transformé, on aura un corps glorieux, mais c'est des choses qui nous dépassent, qui nous transcendent, mais que nous allons vivre, que Dieu soit béni. Alors, essayons d'approfondir ces deux termes. Il nous est dit d'abord que Jésus est appelé fidèle. Le mot fidèle est la traduction du mot grec pistos. Et pistos signifie être absolument digne de toute confiance. C'est être dévoué. C'est être loyal. Et je le dis et je veux parler de mon Seigneur, de mon Jésus ce matin. Jésus est digne d'être appelé le fidèle. Il est le pistos, excusez-moi l'expression, il est le pistos par excellence. Jésus-Christ est par nature intrinsèquement fidèle. Il est fiable. Il est digne de confiance. C'est pourquoi, vous savez, on peut pleinement s'appuyer sur lui. C'est le prophète Ésaïe qui a dit dans Ésaïe chapitre 28, verset 16, ne le cherchez pas. Il nous est dit, il nous est fait, lui aussi désigne le Seigneur Jésus d'une autre façon. Il dit, il est la pierre, une pierre qui est prouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et si en cette année 2019, nous choisissons Jésus comme pierre d'angle, nous choisissons Jésus sur lequel on peut pleinement eh bien, nous appuyer, eh bien, nous n'aurons point hâte de fuir. Et je peux vous dire que le Seigneur que nous servons, il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à ses alliances. En 2018, il y a eu bien des bons moments, mais il y a aussi des moments d'épreuve, des moments de difficulté. Je pense même à la famille Casano. Tour à tour, ils ont été éprouvés dans leur chair, presque aux portes de la mort. Mais ils sont là encore ce matin. Et pour moi, c'est la preuve que le Seigneur a été fidèle à leur égard. Et le Seigneur l'a fait pareil pour chacun d'entre nous. Dieu, il est fidèle. Et il le sera jusque dans l'éternité avec nous. Il le sera bien jusqu'à son retour. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus, bien, il est le fidèle. Il a été fidèle aussi dans le service que Dieu son Père lui a confié lors de son séjour terrestre. Il est resté environ 33 ans sur la terre des hommes. Et durant 3 ans et demi, il a exercé le plus grand et le plus merveilleux des ministères. Et dans tout ce que Dieu le Père lui avait demandé de faire, il a accompli toutes choses par excellence. Regardez ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 2, verset 17, par exemple. En conséquence, Jésus, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux, mais également fidèle dans le service de Dieu, pour faire quoi ? L'expiation des péchés du peuple. Et Jésus a été, je l'ai dit, fidèle dans toute l'œuvre que Dieu lui a confiée. Jésus-Christ sur la croix, d'ailleurs c'est écrit quoi ? L'une des dernières paroles, « Tout est accompli ». Et en prononçant cette parole, il était en train de sous-entendre bien que tout ce que Dieu, le Père, lui avait demandé d'accomplir et que nul autre homme n'aurait pu faire, il l'a accompli parfaitement à la lettre. C'est pour ça, à l'œuvre de Jésus-Christ, il n'y a absolument rien à rajouter et rien à retrancher. Quand je vois encore des personnes qui, même pour certaines personnes dans certains pays, qui se crucifient pour essayer de s'identifier bien à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, tout est accompli. Une seule goutte du sang a suffi pour purifier l'humanité entière, à purifier les hommes et les femmes qui viendraient vers lui et qui reconnaîtraient leurs péchés et qu'ils crieraient à lui pour recevoir bien grâce et pardon. Que Dieu soit béni. Oui, tout a été accompli. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, de la même manière que le Seigneur Jésus, il a été fidèle, nous avons besoin d'être fidèles. Dieu recherche parmi ses enfants des personnes fidèle. Est-ce que vous êtes d'accord à ce que je suis en train de dire ce matin ? C'est pas pour rien qu'on nous appelle les fidèles. La fidélité d'un homme ou d'une femme attirera toujours l'attention de Dieu. Écoutez bien, dès que Dieu voit quelqu'un qui s'exerce, qui s'applique à être fidèle, ça attirera l'attention de Dieu le Père. Et voyez-vous, et c'est ce qui est rassurant quelque part, on ne peut pas tromper Dieu. Il voit, il sait. La fidélité est une vertu qui revêt une grande importance aux yeux de Dieu. Et je voudrais vous le prouver par quelques exemples. Il y a par exemple notre ami Moïse. Il y a quelque chose qu'on peut lire concernant cet homme dans Nombre chapitre 12, les versets 6 à 8. On va le lire ensemble. Je vous laisse le temps de pouvoir trouver donc ces versets. Nombre chapitre 12, versets 6 à 8. Je vais le chercher en même temps avec vous. Nombre chapitre 12. Chapitre 12, du verset 6 à 8. Et il dit, qui dit, c'est Dieu lui-même. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de Dieu, de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? C'est le temps qui nous manquerait pour bien s'arrêter sur le contexte, mais je vous le dis très rapidement, Dieu à un moment donné appelle, convoque trois personnes, Aaron, Marie et Moïse. Ces trois frères et sœurs qui sont convoqués, et pour cause, Aaron et Marie commençaient à murmurer derrière le dos de leur frère Moïse qui avait été choisi par Dieu pour mener le peuple jusqu'aux portes du pays de Canaan. Et Marie reprochait comment ça se fait que Moïse soit avec une femme éthiopienne. Et puis après, tous les deux se disaient, mais le même Dieu qui est capable de parler par la bouche de Moïse est capable aussi de parler de notre bouche. Et à un moment donné, Dieu a convoqué ces trois amis-là. Venez, venez. Il les a convoqués devant le sanctuaire. À un moment donné, Dieu, il se lève. C'est lui le maître de l'Église. Il est la tête de l'Église. Et à un moment donné, il dit stop. Et il va parler à Aaron et il va parler à Marie. Et lui, il leur dit, écoutez bien mes paroles. C'est fort, c'est Dieu qui parle, hein. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Il y a deux révélations qu'on peut tirer de ces versets que nous venons de lire. Première révélation, c'est que Moïse était un homme spécial aux yeux de Dieu. Il avait une relation, une communication spéciale avec Dieu. Il parlait bouche à bouche, c'est une expression, vous l'avez compris. Dieu n'utilisait pas d'intermédiaire, c'est sans songe, sans énigme. Dieu se révélait, il avait comme une représentation, il ne voyait pas Dieu. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais il avait comme une représentation, c'est un mystère que nous découvrirons dans le ciel. Mais on comprend que Moïse est comme distingué de tous les autres prophètes. Et la deuxième révélation qu'on retrouve dans ce passage, c'est que Dieu lui-même nous révèle la raison de ce que Moïse était à part. Moïse avait comme ce privilège. Et cette révélation, on le trouve au verset 7. Tout simplement, Moïse était fidèle dans toute la maison de l'Éternel. Et ça doit nous parler ce matin. Si nous sommes fidèles à la maison de Dieu, nous allons expérimenter l'intimité profonde avec Dieu. Dieu va nous faire entrer dans son intimité, dans son secret, dans sa présence. Quelquefois, nous les chrétiens, nous touchons le Seigneur d'une manière superficielle, mais il y a des dimensions qui nous échappent parce que Dieu est infiniment grand. Il est capable même dans notre chambre, lorsque nous rentrons dans le secret de la présence de Dieu, Dieu est capable de se révéler d'une manière extraordinaire. Il y a même des choses que nous pourrions vivre qui ne nous est même pas permis de raconter aux autres, tellement c'est personnel. Et nous devons garder certaines choses. Il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Les gens pensent qu'on a fait le tour de connaître qui est Dieu. Il y en a, ils n'ont même pas commencé. Je vous l'ai déjà raconté, ce frère que j'aime beaucoup et qui, à un moment donné, a passé un temps, 3 heures, 4 heures dans la... C'est pas une question de temps, mais il était là seul dans sa chambre, dans le séjour de son appartement. Il a senti la présence de Dieu, il était content, il pleurait, il était dans la joie en même temps. Et à un moment donné, il voulait arrêter, comme fatigué. Et le Seigneur lui dit, tu n'as pas encore commencé de me connaître, que tu es déjà fatigué de me chercher. Un frère que j'apprécie beaucoup, parce que pour moi je le considère comme un grand frère dans la foi. Un frère qui nous a quelquefois emmenés dans des nuits entières de prière. Et pour lui c'était quelque chose d'assez assez facile. Mais voyez-vous ce que Dieu lui a dit, tu n'as pas encore commencé de me connaître, que tu es déjà fatigué de me chercher. Que sais-tu de Dieu ? Je crois que ceux et celles eh bien, qui sont fidèles dans la maison de Dieu verront Dieu d'une manière particulière. Ils seront distingués. Dieu aime tous ses enfants. Mais comprenez que Dieu va se révéler davantage à celui ou celle qui le cherche eh bien, avec un cœur eh bien, qui a soif d'en savoir plus, d'en connaître un peu plus sur la personne de Dieu. Moïse était fidèle dans toute la maison de l'Éternel. Et on le voit par la suite quand Dieu a communiqué à Moïse les plans bien précis de la construction du tabernacle. Toujours Moïse veillait à ce que eh bien, ce que Dieu lui avait demandé de faire soit pleinement exécuté, j'allais dire, à la lettre. Regardez, à plusieurs reprises dans Exode chapitre 39 et 40, vous relirez ces chapitres et vous verrez. Il y a comme en redondance, il est dit « comme l'Éternel avait demandé à Moïse ». Une répétition près de 15 fois, il me semble, entre le chapitre 39 et 40. Voilà un homme qui est fidèle. Il ne veut pas faire ce qui lui passe par la tête, il veut faire surtout ce que Dieu lui demande de faire. Et il y en a assez dans la parole, de savoir ce que Dieu nous demande, alléluia, de pouvoir faire. Un autre exemple, alors celui-là, il ne peut pas nous échapper, c'est celui de David. David, en comparaison au roi Saül, on le lit au travers de Actes chapitre 13, les versets 21 et 22, on va le lire ensemble. Actes chapitre 13 du verset 21 jusqu'au verset 22. On va le lire ensemble. Je vous laisse le temps aussi de le chercher. Actes chapitre 13, les versets 21 et 22. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Dieu rend témoignage au sujet d'un homme. Il va dire quoi ? Parlons de David. « J'ai trouvé David, fils d'Isaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Pourtant, Saül a régné pendant 40 ans. Mais c'était un homme qui malheureusement n'écoutait pas pleinement la voix de Dieu. Il n'était pas fidèle à ce que Dieu lui demandait. C'est pour ça que Dieu l'a mis de côté et qu'il en a choisi un meilleur. Il a dit « j'ai trouvé ». Preuve que Dieu cherche. Hein ? Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui sont fidèles, qui lui soient fidèles. « J'ai trouvé David, fils d'Isaï, homme selon mon cœur. » C'est quoi être un homme selon le cœur de Dieu ? Ah ben, la réponse est juste après. C'est quelqu'un qui accomplit, qui s'applique à accomplir toutes les volontés. Alléluia de Dieu. Et si nous sommes là, c'est parce que nous voulons accomplir les volontés de Dieu. Amen ou pas ? Amen, frères et sœurs. J'ai trouvé David, homme fidèle. Dieu a trouvé Moïse, Dieu a trouvé David. Bien sûr, notre exemple par excellence, c'est Jésus qui a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Ah bien, de même que Dieu nous reconnaisse comme étant des personnes fidèles. Déjà fidèle à lui, ça commence par cela. Être fidèle à Dieu, c'est bien sûr, c'est vivre pleinement sa foi. Pas à demi-mesure, mais pleinement sa foi. C'est être aussi attaché à Dieu. C'est être profondément lié eh bien, à Dieu. Et notre attachement va faire en sorte que nous n'allons pas tergiverser en cette année 2019, mais plus que jamais nous améliorer et aller de l'avant avec lui. À l'inverse, l'infidèle, il se reconnaît par le fait qu'il n'est pas ferme dans ses sentiments. Vous savez, le chrétien qui est superficiel, qui vient suivant les circonstances. Je vous avais dit une fois, quelqu'un dit, je venais plus à l'église, eh bien parce que lorsque dans cette fameuse agape, on a servi le gâteau, moi on ne me l'a pas servi. Je ne sais pas s'il faut rire, s'il faut pleurer. Ça ne tiendra pas tout ça. Ça ne tiendra pas. D'ailleurs, j'ai l'impression même que le diable ne s'occupe même pas de ces personnes-là. On a besoin d'avoir une foi ancrée en Dieu. Parce que notre fidélité sera fonction de notre foi. D'ailleurs, eh bien, fidélité, être fidèle, et puis la foi, c'est la même racine, pistis. Donc, ma fidélité sera fonction de ma foi. Et plus ma foi sera affermie, plus ma foi sera approfondie, eh bien, plus je serai sérieux. La Bible nous dit, concernant Noé, Noé prit au sérieux ce que Dieu lui demandait de faire. C'est pour ça qu'il a fait quelque chose de folie, de fou pour son temps, qui lui a même valu eh bien, la moquerie. Aujourd'hui, quand il faut annoncer l'évangile à l'extérieur, on entre dans l'arène. Certains nous se raillent de nous, se moquent de nous, etc. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ce que Dieu a demandé à Noé, il le demande à son église aujourd'hui, va construire l'arche. Et c'est dehors, aux yeux de tous, aux yeux de leur, en face de leur moquerie, en face de leur mépris. Je me rappelle ce jour où ce gars est venu avec ce coup de couteau, a failli me trancher la gorge, mais Dieu l'a arrêté. Le parlant-langue est sorti, il est resté paralysé comme cela. On est exposé, c'est vrai, mais le Seigneur, il est avec nous. Et il veut qu'on lui soit fidèle. Fidèle à l'égard de notre propre famille, c'est tellement important. Je parle bien sûr de nos conjoints, de nos enfants, je parle bien et donc également de nos parents. Je parle de la chair de notre chair. C'est important. La Bible est claire. Ne le cherchez pas. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est même pire qu'un infidèle. Il n'est pas pistos, il est apistos. Voilà, infidèle, en grec, apistos. Que Dieu nous garde d'être apistos à l'égard à bien de notre famille. Ça, c'est tellement important. Je suis convaincu que lorsqu'on comparaîtra devant le Seigneur, Dieu nous demandera compte de notre première église, c'est-à-dire notre femme, nos enfants et nos parents. Que Dieu nous reconnaisse aussi comme étant fidèles dans les choses de la vie courante. Frères et sœurs, il me faut nous rappeler qu'il ne faut pas que nous nous trompons par de faux raisonnements. Si nous ne sommes pas fidèles au sujet des choses de la terre, frères et sœurs, comment le serons-nous pour les choses célestes? Et croyez-moi, le Seigneur, il voit tout. Il sait tout. Et la sanctification dont j'ai fait mention lors des annonces tout à l'heure va aussi consister à nous remettre en cause, afin que devant la loi, devant l'administration, devant les autorités que Dieu lui-même a mis en place, voilà ce que dit le Romains chapitre 14, nous soyons vrais, honnêtes, en tout point. Ils ont essayé d'attraper Daniel, essayé de trouver eh bien, s'il y avait quelqu'un en tourloupe eh bien, dans ses activités. Ils n'ont rien trouvé. Voilà l'exemple d'une fidélité. Et Dieu, voyant qu'on est fidèle dans les petites choses, parce que les petites choses, ça, c'est en rapport avec les choses de la vie courante, Dieu nous confiera des grandes choses. On a besoin eh bien, d'être fidèle dans le service qu'il nous a confié. Vous savez que Jésus il voit, il connaît eh bien, la teneur de notre service. Si on est fidèle dans notre service, est-ce que vous le savez ça? Regardez ce qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, le verset 19. Jésus s'adresse à l'église, cette fois-ci de Thyatire, et il va dire quelque chose. Il dit, parlant de cette église, « Je connais tes œuvres. » Dieu rajoute, il dit, « Je connais ton amour. Je connais ta foi, pistis. Mais je connais aussi ton fidèle service. Je connais ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Avez-vous remarqué que c'est uniquement par rapport au service que le Seigneur Jésus a cru bon de pouvoir rajouter un qualificatif, et quel qualificatif il nous concerne ce matin? Je connais ton fidèle service. Est-ce que Dieu attend de nous, dans le service qu'il nous a confié, dans le service que l'on reconnaît comme nous l'avons reçu de la part du Seigneur, ce que Dieu attend, c'est la fidélité. Le résultat, il appartient à Dieu. Est-ce que nous le comprenons? C'est pour ça que ne soyons pas frustrés du résultat. Dieu voit ce service, mais il voit surtout si on est fidèle eh bien, dans le service auquel le Seigneur nous a appelés. Je pourrais rallonger la liste. Il y a tellement de domaines dans lesquels Dieu attend que nous soyons fidèles. Ce que je pourrais dire, pour terminer avec ce premier point, en fait, Dieu désire que nous lui soyons fidèles tous les jours de notre vie. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans les jours de joie, de paix, mais aussi dans les moments d'adversité et d'épreuve. C'est encore une autre lettre que Jésus a écrite, cette fois-ci à l'église de Smyrne, et nous lisons dans Apocalypse chapitre 2, cette fois-ci le verset 10. Jésus prévient cette église et lui dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Tu sais, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et alors je te donnerai la couronne de vie. C'est une parole que le Seigneur pourrait nous dire encore aussi ce matin. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Avez-vous remarqué, il dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Preuve que le Seigneur, il est au contrôle. Il y aura 10 jours, mais il n'y aura pas plus. Je te le dis d'avance, pour que psychologiquement tu te prépares, pour que spirituellement tu te prépares. Ce que je te demande, c'est juste que tu sois fidèle jusqu'à la mort. Et voilà ce que dit ce passage. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Autrement dit, sois fidèle, même s'il faut que tu puisses braver la mort. Sois fidèle quand même. Sois fidèle jusqu'à ton dernier souffle. Et alors, je te donnerai la couronne de vie. Il y a une couronne de vie qui est plus que polie, qui est scintillante et qui nous attend là-haut dans le ciel de gloire. Que Dieu soit béni. Jésus est appelé fidèle, mais il est aussi appelé le véritable. Et je veux terminer par cela. Le mot véritable est la traduction du mot grec, cette fois-ci, aleithinos, ce qui signifie le véridique, celui qui est franc, le sincère, l'authentique. Et croyez-moi, Jésus est le véritable. Et pour nous, c'est rassurant. Il est l'authentique. L'apôtre Jean, d'ailleurs, va, dans son évangile selon saint Jean, va déclarer et va dire que Jésus est la véritable lumière. Jésus lui-même va se présenter comme étant la vérité, mais la vérité avec un grand V. Il est la vérité, il est le véritable pain qui est descendu du ciel. Il est quoi encore ? Il est aussi le vrai cep qui est capable, eh bien, alléluia, de nous nourrir. Jésus n'est pas une contrefaçon. Il n'est pas, eh bien, non plus, alléluia, une copie. Il est l'original. C'est le diable qui est la contrefaçon de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est le diable qui singe, eh bien, Dieu. C'est lui qui est le menteur. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il est le père du mensonge et que Dieu nous garde, eh bien, d'avoir affaire à lui. Nous voulons, nous, avoir affaire à celui qui est le véritable. Et celui qui demeure dans la vérité. Et vous l'avez compris, Dieu désire que nous soyons appelés véritables, tout comme son Fils bien-aimé. Rendez compte si le Seigneur du haut de son ciel pouvait nous appeler et nous reconnaître comme étant véritables. Ce n'est pas infaisable par nous-mêmes. C'est quasiment impossible. Mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. La vérité est la marque même du véritable chrétien. C'est la première arme que l'apôtre Paul présente dans Éphésiens chapitre 6 pour faire face à l'ennemi, pour tenir ferme contre l'ennemi. Vous savez, quand on est dans la vérité, déjà on est heureux, on est libre. On est libre de tout artifice, de tout faux semblant, de toutes ces choses, on est soi-même, c'est pas vrai ? Mais quand on te tient dans la vérité, le diable n'a pas de prise sur nous. Il n'a aucun moyen sur lequel il pourrait s'agripper, sur lequel il pourrait se reposer. Parce qu'il est en horreur la vérité, il est le père même du mensonge. Oui, Dieu désire que nous soyons reconnus par lui comme étant des personnes qui demeurent dans la vérité. Et pour cela, nous devons marcher dans la vérité. Cette année 2019, durant ces 365 jours, Dieu, par son Esprit Saint, va nous aider à pouvoir marcher de plus en plus, de mieux en mieux, dans la vérité. Qui est intéressé par ce programme ? Alléluia ! On a besoin d'être vrai. Essayez de vous imaginer un seul instant, même une once, même un iota de mensonge dans le ciel. Quelqu'un qui a été hypocrite toute sa vie et qui arrive à entrer dans le ciel. Mais c'est impossible, lui-même sera gêné. Tout est lumière, tout est vrai là-haut dans le ciel de gloire. On a besoin de marcher dans la vérité. Un peu à l'exemple de Gaius. Qui connaît Gaius ? Gaius dans la Bible. Lisez avec moi le courrier que l'apôtre Jean a écrit à cet ancien qui certainement avait une fonction dans sa maison, une fonction dans l'église. Et regardez ce qu'il dit, 3 Jean, versets 3 et 4. Je ne donne pas de chapitre parce que dans l'épître de Jean, il n'y a qu'un seul chapitre. 3 Jean, versets 3 et 4. Imaginez-vous l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, qui écrit ce courrier et il l'adresse à son ami, à Gaius. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Sache-le, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est fort ça. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et si c'était Dieu lui-même qui nous parlait ainsi? Et si c'est Dieu qui me parlait ce matin, qui te parlait, mon frère, ma sœur? Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Vous savez, le Seigneur, il est sur son trône et il observe parfaitement tout ce qui se passe. Il est au contrôle même des évolutions de ce monde, tout ce qui se passe dans le monde. Mais il est au courant aussi de ce qui se passe dans l'Église. Et croyez-moi, le Seigneur, il éprouve une grande joie quand il voit ses enfants marcher dans la vérité. Certains pourraient dire, mais c'est quoi marcher dans la vérité? Oh, la liste pourrait être longue, mais très rapidement, juste deux exemples. Marcher dans la vérité, on l'a entendu au travers des dons spirituels. C'est aussi, entre autres, garder les commandements de Dieu. C'est obéir aux commandements de Dieu. Et j'ai pris pour vous aussi un verset pour appuyer ce que j'avance. 1 Jean chapitre 2, verset 4, il nous est dit, « Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui et encore moins, il ne marche pas dans la vérité. » C'est quoi marcher dans la vérité? Un deuxième et dernier exemple, eh bien c'est ni plus ni moins pratiquer l'amour. Et on en revient. Être dans le véritable, être dans la vérité, c'est aussi être dans l'amour ou non? Regardez ce qu'il est dit, 1 Jean chapitre 4 et le verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est qui? C'est quoi? C'est un menteur? Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Il y a une telle logique dans la parole de Dieu. Et la parole, elle est là comme une épée tranchante, à double tranchant, prêt à séparer jointure et moelle. Elle juge même les pensées secrètes des cœurs. Et elle nous rappelle qu'on ne peut pas compartimenter les choses. Parce que si j'aime Dieu, forcément, alléluia, j'aime mon prochain. Et l'inverse est vérifié. Parce que eh bien, j'aime Dieu, j'aime mon prochain. Et parce que j'aime mon prochain, alors forcément, je prouve à tous que j'aime Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Je ne peux pas dire, je loue, j'adore le Seigneur, j'aime Dieu. Et puis à côté, je suis en conflit avec mon prochain, quel qu'il soit. Parce que le même Seigneur nous a dit, même dans Matthieu chapitre 5, de pouvoir même prier pour nos ennemis, d'aimer nos ennemis, de ne pas rendre le mal pour le mal. Alors, à combien plus forte raison à l'égard de notre frère, le frère en chair, mais le frère surtout dans la foi? Est-ce que vous avez fait attention à celui qui est à votre droite ou à votre gauche? Regardez-le juste quelques 5 secondes, furtivement, très rapidement. Et dites-vous que cette personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Elle a du prix aux yeux de Dieu. L'âme, le cœur de celui qui est à votre droite ou à votre gauche. Ne touchons pas à la prunelle des yeux du Seigneur. C'est comme ça qu'on va marcher dans la vérité. Quand on va être en paix avec tous, quand on va aimer le frère. Même avec son caractère, hein. Même avec ses attitudes, hein. Frères et sœurs, s'il y avait encore quelques personnes tenues par une quelconque amertume ou quelconque lien, au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, dégage-toi. Comme l'oiseau pourrait se dégager du filet de l'oiseleur. Sois libre ce matin. Parce que la vraie liberté, c'est d'aimer le prochain quel qu'il soit. La vraie liberté, c'est le pouvoir à regarder quiconque et dire, mais oh, elle est merveilleuse la créature de Dieu. C'est ça être libre. C'est ça être dans le vrai, dans le véritable. Je ne veux pas sourire jaune devant quelqu'un ou bien lui serrer la main alors que le cœur n'y est pas. Ça, c'est dans le monde qu'on le voit. Mais dans l'Église, il n'en est pas ainsi. Les incroyants en ont assez de voir des chrétiens qui disent mais qui ne font pas. Les incroyants, les infidèles, au contraire, veulent voir des chrétiens authentiques qui vivent ce qu'ils professent. C'est juste ça. Pas avoir des connaissances à 4 étages, pas faire ceci, ça. Frères et sœurs, si on pouvait même obéir à ce commandement. D'ailleurs, Jésus, pour simplifier la chose, a résumé la loi. Que nous ne rejetons pas. Il l'a résumé en 2 commandements. Tu aimeras sur ton lieu, tout ton cœur, ton âme, ta force et ta pensée. Et puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en faisant ces choses, frères et sœurs, on est heureux. En faisant ces choses, eh bien, nous devenons nous-mêmes un témoignage pour ceux du dehors. Regardez ce qu'il est dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 12, c'est le dernier verset. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Quand je vis l'amour, je deviens prospectus vivant. Quand je vis l'amour, j'évangélise finalement. Quand je vis l'amour et quand je vis eh bien, la parole de Dieu, eh bien, sans parole quelquefois, eh bien, nous avons un impact sur ceux et celles qui nous entourent. En conclusion, on l'a vu et c'est bien sûr ce qu'il faut retenir. Jésus est appelé le fidèle et le véritable. Et je me rends compte quelque part avec vous ce matin que ces deux vertus n'ont pas été associées de manière anodine. En effet, comment être véritablement fidèle si nous ne nous tenons pas dans la vérité ? Et à l'inverse, comment être vrai si nous ne sommes pas fidèles à ce dans quoi nous croyons ? Ils sont intimement liés. Pour être fidèle, il faut être vrai. Et pour être vrai, il faut bien sûr être fidèle à ce dans quoi nous croyons. Je crois que nous avons tous besoin, les uns les autres, avec bien sûr l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir développer dans notre vie chrétienne ces deux grandes vertus. L'une comme l'autre va nous aider à ressembler à Jésus-Christ, c'est indéniable. Mais comme je l'ai dit en introduction, ces deux vertus nous permettront d'entrer dans le paradis de Dieu. Nous l'avons lu, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Sans fidélité, personne ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Et puis aussi, bien sûr, également, eh bien, le fait d'être vrai. La Bible dit « Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux ». Et nous ne voudrions pas nous tenir dans le mensonge, mais nous voudrions nous tenir dans la vérité, afin que lorsque Jésus-Christ apparaîtra, en un clin d'œil, nous soyons eh bien, attirés vers lui et transformés en son image. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Oui, Seigneur, tu es le centre même, alléluia, de notre vie. Tu es l'exemple même à pouvoir, Seigneur, calquer dans nos vies. Seigneur, tu es le fidèle et tu es le véritable. Et nous voudrions te ressembler en tout point. Donne-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur, dans cette fidélité que tu attendras, Seigneur, de ton Église, qui sera sans rides, sans tache, qui sera fin prête et comme on l'a entendu, parfaite à tes yeux par le sang précieux de Jésus. Donne-nous également à marcher dans la vérité et que la vérité même demeure au-dedans de nous par la personne de Jésus. C'est lui le véritable. C'est lui le témoin fidèle et véritable. Seigneur, mon Dieu, donne-nous être vrai. Donne-nous, Seigneur Père, mon Dieu, à ce que tu puisses nous reconnaître comme étant fidèle et véritable à tes yeux. Et que tout mensonge, toute dissimulation, toute hypocrisie soit chassée au nom de Jésus, loin de tes enfants, afin que le Saint-Esprit soit à l'aise parmi nous, afin que, Seigneur, nous puissions voir ta gloire, car nous attendons à toi pour cette année 2019. Seigneur, donne-nous à prendre soin de nos familles. Donne-nous, Seigneur Père, mon Dieu, être fidèles dans les choses de la vie. Donne-nous un marché de sanctification en sanctification, car tu as dit que celui qui se sanctifie encore. Mais que celui qui se souille encore. Et nous ne voudrions pas vivre cette souillure. Seigneur, tu nous en as tirés. Seigneur, c'est pour que nous puissions au contraire marcher de pureté en pureté. Amen.